Chapitre 6. La route de Clermont. 20 jours plus tard, la petite cité de Clermont-de-l'Oise connaissait une animation fort inhabituelle. Des portes jusqu'au château royal, de l'église à la prévôté, il y avait grand mouvement de peuple. On se bousculait dans les rues et dans les tavernes avec une rumeur joyeuse, et les tentures de procession flottaient aux fenêtres. Car les crieurs publics avaient annoncé tôt le matin que Monseigneur de Poitiers, second fils du roi, et son oncle, Monseigneur de Valois, venaient accueillir au nom du souverain leur sœur et nièce, la reine Isabelle d'Angleterre. Celle-ci, débarquée 3 jours plus tôt sur le sol de France, faisait route à travers la Picardie. Elle avait quitté Amiens le matin. Si tout allait bien, elle parviendrait à Clermont en fin d'après-midi. Elle y dormirait, et le lendemain, son escorte d'Angleterre jointe à celle de France, elle se rendrait au château de Maubuisson, près Pontoise, où son père, Philippe le Bel, l'attendait. Peu avant vêpres, prévenu de l'approche des princes français, le prévôt, le capitaine de ville et les échevins passèrent la porte de Paris pour présenter les clés. Philippe de Poitiers et Charles de Valois, qui chevauchaient en tête, reçurent leur bienvenue et pénétrèrent dans Clermont. Derrière eux s'avançaient plus de 100 gentilshommes, écuyers, valets et gendarmes, dont les chevaux soulevaient grande poussière. Une tête dominait toutes les autres, celle de Robert d'Artois. À cavalier géant, monture géante. Ce colossal seigneur, assis sur un énorme percheron rouan et portant bottes rouges, manteau rouge, cottes d'armes de soie rouge, attirait forcément les regards. Alors que chez maint cavalier, la fatigue était visible, lui restait droit en selle, comme s'il venait juste d'y monter. En vérité, depuis le départ de Pontoise, Robert d'Artois avait, pour se soutenir et se rafraîchir, le sentiment aigu de la vengeance. Il était seul à savoir le but véritable du voyage de la jeune reine d'Angleterre, seul à en deviner les développements. Et il en tirait d'avance une jouissance âpre et secrète. Pendant tout le trajet, il n'avait cessé de surveiller Gautier et Philippe Daunet, qui faisaient partie du cortège, le premier comme écuyer de la maison de Poitiers et le cadet comme écuyer de celle de Valois. Les deux jeunes gens étaient ravis du déplacement et de tout ce train royal. Pour mieux briller, ils avaient, dans leur innocence et leur vanité, accroché sur leurs vêtements d'apparat les belles aumônières données par leur maîtresse. En voyant ces objets étincelés à leur ceinture, Robert d'Artois sentit passer dans sa poitrine les ondes d'une énorme joie cruelle, et il eut peine à s'empêcher de rire. « Allez, mes gentillets, mes oisons, mes coquebins, se disait-il. Souriez donc en pensant aux beaux seins de vos dames. Pensez-y bien, car vous n'y toucherez plus guère. Et respirez le jour qu'il fait, car je crois fort que vous n'en aurez plus beaucoup d'autres. » En même temps, gros tigre jouant griffe rentrée avec sa proie, il adressait aux frères Daunet des saluts cordiaux ou leur lançait quelques joyeusetés sonores. Depuis qu'il les avait sauvés du faux guet-apens de la tour de Nesle, les deux garçons se considéraient comme ses obligés et se sentaient tenus de lui témoigner de l'amitié. Quand le cortège s'arrêta, ils invitèrent d'Artois à vider en leur compagnie un broc de vin gris sur le seuil d'une auberge. « À vos amours !» leur dit-il en levant son gobelet. « Et gardez bien le goût de ce petit vin !» Dans la grande rue coulait une foule dense qui ralentissait l'avance des chevaux. La brise agitait légèrement les draperies multicolores qui ornaient les fenêtres. Un chevaucheur arriva au galop, annonçant que le train de la reine d'Angleterre était en vue. Aussitôt se refit un grand branle-bas. « Pressez nos gens !» cria Philippe de Poitiers à Gautier Daunet. Puis, se tournant vers Charles de Valois, « Nous sommes à l'heure qu'il faut, mon oncle !» Charles de Valois, tout de bleu vêtu et un peu congestionné par la fatigue, se contenta d'incliner la tête. Il se serait bien passé de cette chevauchée. Son humeur était morose. Le cortège avança sur la route d'Amiens. Robert d'Artois s'approcha des princes et se mit au botte à botte avec Valois. Bien que dépossédé de l'héritage d'Artois, Robert n'en était pas moins cousin du roi, et sa place était sur le rang des premières couronnes de France. Regardant la main gantée de Philippe de Poitiers fermée sur les rênes de son cheval noir, Robert pensait C'est pour toi, mon maigre cousin. C'est pour te donner la comté franche que l'on m'a ôté, mon Artois. Mais avant que demain soit achevé, tu vas recevoir une blessure dont ni l'honneur ni la fortune d'un homme ne se remettent aisément. Philippe, comte de Poitiers et mari de Jeanne de Bourgogne, était âgé de 21 ans. Par le physique autant que par la manière d'être, il différait du reste de la famille royale. Il n'avait pas la beauté majestueuse et froide de son père, ni le turbulent embonpoint de son oncle. Il tenait de sa mère, la Navarraise. Long de visage, de corps et de membres, très grand, ses gestes étaient toujours mesurés, sa voix précise, un peu sèche. Tout en lui, le regard, la simplicité du vêtement, la courtoisie contrôlée de ses propos, disait une nature réfléchie, décidée, où la tête l'emportait sur les impulsions du cœur. Il était déjà dans le royaume une force avec laquelle il fallait compter. La rencontre des deux cortèges se fit à une demi-lieue de Clermont. Quatre héros de la maison de France, groupés au milieu du chemin, levèrent leurs longues trompettes et lancèrent quelques sonneries graves. Les sonneurs anglais répondirent en soufflant dans des instruments semblables, mais d'une tonalité plus aiguë. Les princes s'avancèrent, et la reine Isabelle, mince et droite sur sa haquenée blanche, reçut la brève bienvenue que lui adressa son frère, Philippe de Poitiers. Charles de Valois vint ensuite baiser la main de sa nièce, puis ce fut le tour du comte d'Artois, qui, dans la grande inclinaison de tête et le regard qu'il adressa à la jeune reine, sut assurer celle-ci qu'il n'y avait ni obstacle ni imprévu dans le déroulement de leur machination. Pendant que s'échangeaient compliments, questions et nouvelles, les deux escortes attendaient et s'observaient. Les chevaliers français jugeaient les costumes des Anglais. Ceux-ci, immobiles et dignes, le soleil dans l'œil, portaient avec fierté, brodées sur leurs côtes, les armes d'Angleterre. Encore qu'ils fussent pour la plupart français d'origine et de nom, on les sentait soucieux de faire belle figure en terre étrangère. De la grande litière bleue et or qui suivait la reine, s'éleva un cri d'enfant. « Ma sœur, dit Philippe, vous avez donc amené Derechef, notre petit-neveu, en ce voyage? N'est-ce pas bien éprouvant pour un enfant d'un si jeune âge ?»« Je n'aurai garde de le laisser à Londres sans moi, » répondit Isabelle. Philippe de Poitiers et Charles de Valois lui demandèrent quel était le but de sa venue. Elle leur déclara simplement qu'elle voulait voir son père, et ils comprirent qu'ils n'en sauraient pas plus, au moins pour l'instant. Un peu lassée par la longueur de l'étape, elle descendit de sa jument blanche et prit place dans la grande litière portée par deux mules caparaçonnées de velours. Les escortes se remirent en marche vers Clermont. Profitant de ce que Poitiers et Valois reprenaient la tête du cortège, D'Artois poussa son cheval auprès de la litière. « Vous êtes plus belle à chaque fois qu'on vous voit, ma cousine, » lui dit-il. « Ne mentez point. Je ne puis certes être belle après une semaine de chemin et de poussière, » répondit la reine. « Quand on vous a aimé de souvenir pendant de longues semaines, on ne voit point la poussière, on ne voit que vos yeux. » Isabelle se renfonça un peu dans les coussins. De nouveau, elle se sentait reprise de cette singulière faiblesse qu'il avait saisie à Westminster en face de Robert. « Est-il donc vrai qu'il m'aime ? » pensait-elle. « Ou bien seulement me fait-il compliment comme il en doit faire à toute femme ?» Entre les rideaux de la litière, elle voyait au flanc du cheval pommelé l'immense botte rouge et l'éperon doré. Elle voyait cette cuisse de géant dont les muscles roulaient contre l'arçon de la selle. Et elle se demandait si, chaque fois qu'elle se trouverait en présence de cet homme, elle éprouverait ce même trouble, ce même désir d'abandon. Elle fit effort pour se dominer. Elle n'était point là pour elle-même. « Mon cousin, dit-elle, profitons de ce que nous pouvons parler et mettez-moi au fait de ce que vous avez à m'apprendre. » Rapidement, et feignant de lui commenter le paysage, il lui raconta ce qu'il savait et ce qu'il avait fait, la surveillance dont il avait entouré les princesses royales, le guet-apens de la tour de Nesle. « Quels sont ces hommes qui déshonorent la couronne de France ?» demanda Isabelle. « Ils marchent à 20 pas de vous. Ils sont de l'escorte qui vous fait conduite. » Et il donna les renseignements essentiels sur les frères d'Aunay, leurs fiefs, leur parenté, leurs alliances. « Je veux les voir, » dit Isabelle. À grand signe, D'Artois appela les deux jeunes gens. « La reine vous a remarqué, » dit-il en leur faisant un gros clin d'œil. Les visages des deux garçons s'épanouirent d'orgueil et de plaisir. D'Artois les poussa vers la litière, comme s'il était en train de faire leur fortune, et tandis qu'il saluait plus bas que l'encolure de leur monture, il dit, jouant la jovialité, « Madame, voici messire Gautier et Philippe Daunet, les plus loyaux écuyers de votre frère et de votre oncle. Je les recommande à votre bienveillance. Ils sont un peu mes protégés. » Isabelle examina froidement les deux jeunes hommes, se demandant ce qu'ils avaient dans le visage et l'allure qui pût détourner de leur devoir des filles de roi. Ils étaient beaux, à coup sûr, et la beauté des hommes gênait toujours un peu Isabelle. Soudain, elle aperçut les aumônières à la ceinture des deux cavaliers, et ses yeux aussitôt cherchèrent ceux de Robert. Ce dernier eut un bref sourire. Désormais, il pouvait rentrer dans l'ombre. Il n'aurait même pas à assumer devant la cour le rôle déplaisant de délateur. « Beau labeur, Robert, beau labeur !» se disait-il. Les frères Daunet, la tête pleine de rêves, allèrent reprendre leur place dans le défilé. Les cloches de toutes les églises de Clermont, de toutes les chapelles, de tous les couvents, sonnaient à la volée, et de la petite ville en liesse montaient déjà de longues clameurs de bienvenue vers cette reine de 22 ans qui apportait à la cour de France le plus surprenant des malheurs.